Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Il faut une loi qui rendra le service national et les services militaires obligatoires pour toute la jeunesse congolaise pour rendre l'armée capable de faire face à toute menace. C'est le vœu du président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, lui, appelle à la réduction du train de vie des institutions comme sacrifice pour faire face à l'agression rwandaise. Ils l'ont dit hier à l'ouverture de la session parlementaire de mars. Par ailleurs, le gouvernement doit se fixer des limites à ne pas dépasser en cas de négociation avec le M23, recommandation de la société civile de Beni Butembo et Lubero Nord Kivu à l'issue d'une réunion hier samedi. Et puis, l'invité de ce matin, Moussa Kabwankubi Moïse, gouverneur du Maniema. Il nous parle de la structure Tujenge Maniema. Entendez, construisons le Maniema. Que représente cette structure, ses objectifs et qui peut y contribuer? Madame, Messieurs, bonjour. Vital Kamerhe plaide pour une loi qui rendra le service national et les services militaires obligatoires pour toute la jeunesse congolaise afin de rendre l'armée capable de faire face à toute menace. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit hier dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, session marquée par l'occupation d'une partie de la RDC par l'armée rwandaise et le M23 AFC. Face aux innombrables menaces existentielles, la nécessité historique de la survie et la conservation du peuple congolais l'emporte largement sur toute forme de clivage et division, souligne le speaker de la Chambre basse du Parlement, qui invite les députés à lutter sincèrement pour l'unité nationale. On écoute Vital Kamerhe.
J'en appelle ici aux dignes élus de s'engager avec sincérité dans la lutte contre toute forme de discrimination et stigmatisation pour rassembler les Congolais de toute origine et appartenance politique autour de l'impératif de préserver la paix et la sécurité autant que l'intégrité de notre territoire pour les générations actuelles et futures. C'est dans ce cadre que l'initiative législative portant sur la lutte contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie devra faire l'objet d'une attention soutenue. C'est au prix du dépassement de l'horizon des intérêts individuels que nous préserverons notre pays du spectre de la balkanisation qui plane sur lui depuis quelques décennies. Par ailleurs, il serait illusoire d'envisager la paix sans se doter de moyens militaires indispensables à sa pérennisation. Je rappelle donc l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée nationale. C'est pour cela que je vous invite à examiner la possibilité d'introduire les services nationaux et les services militaires obligatoires pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse, au bénéfice de la défense nationale.
Côté Sénat, dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre haute du Parlement appelle à la réduction du train de vie des institutions comme sacrifice de tous pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Jean-Michel Samalukonde invite tous les sénateurs et le peuple congolais à s'aligner derrière le président de la République pour défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. On écoute Jean-Michel Samalukonde.
Point n'est besoin de rappeler que leur est grave, et même très grave. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la FCM en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont constamment commis. La République démocratique du Congo paye le prix fort du fait de son hospitalité et des richesses naturelles dont Dieu l'a doté. Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. La réduction du train de vie des institutions doit être considérée comme l'une des mesures phares de l'effort que nous apportons à la guerre. Soyons déterminés et alignons-nous derrière le commandant suprême de nos forces armées. À nos forces de défense et de sécurité, je tiens à les assurer, peuvent compter sur l'accompagnement du peuple congolais que nous représentons.
C'est un dossier signé Michel Kifindangoy. Je vous l'ai dit dans les titres, la société civile de Beni Butembo et Lubero au Nord Kivu appelle le gouvernement à se fixer des limites qu'il ne doit pas dépasser en cas de négociation avec la rébellion du M23. Ces forces vives l'ont exprimé hier dans une déclaration à l'issue d'une réunion d'analyse sur les efforts diplomatiques privilégiant la voie du dialogue pour la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Tout en estimant que l'option militaire serait la meilleure, ces forces vives recommandent que ce dialogue, s'il a lieu, s'étiennent dans le respect de l'ordre constitutionnel et de la souveraineté de la RDC et qu'ils ne consacrent pas l'impunité. Ces recommandations sont lues par Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni, extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
Pour la société civile du Grand Nord Kivu, l'option militaire serait la meilleure, mais si le gouvernement accepte de négocier, il serait important de se fixer des limites à ne pas dépasser. Ne pas ouvrir la brèche à la déstabilisation de l'ordre constitutionnel, s'abstenir de signer les engagements exposant davantage à la violation de l'intégrité et la souveraineté nationale, que le processus de dialogue ou négociation ne soit pas un prétexte de consacrer de l'impunité en blanchissant les crimes commis en RDC. Que le dialogue ou la négociation ne donne pas une fenêtre à l'introduction de nouveaux éléments étrangers dans l'armée congolaise. Les forces vives redoutent de l'implantation de certaines populations non congolaises sur le territoire national à l'issue de ces négociations ou dialogues.
Restons au Nord Kivu pour signaler que l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, annonce son désengagement dès la fin de ce mois de mars de la prise en charge gratuite des blessés par arme victimes des affrontements à Goma. Cette assistance était dispensée à l'hôpital général de référence des Virunga. Depuis janvier, les équipes de MSF soutenaient cet hôpital débordé par l'afflux des blessés de guerre. Le point avec Rosalie Zawadi.
Au total, 726 blessés, parmi lesquels 618 étaient des blessés par balle, ont été pris en charge pendant cette période d'intervention. L'équipe des MSF a effectué 333 interventions chirurgicales en faveur de ces blessés. Un programme mené pour répondre à la crise qu'a connue la ville de Goma fin janvier, explique le docteur Maria Machako, coordonnatrice médicale des MSF en RDC.
Depuis la fin du mois de janvier, les équipes des Médecins sans frontières ont soutenu l'hôpital général des références de Virunga dans la prise en charge gratuite des blessés par arme, victimes des affrontements dans la ville de Goma. Cette intervention d'urgence menée en collaboration avec le ministère de la Santé sur une période de 2 mois arrive bientôt à sa fin. Le nombre des blessés ayant fortement diminué, les équipes chirurgicales de l'hôpital de Virunga ont la capacité de prendre le relais de manière durable.
D'ici à la fin de cette intervention, le 31 mars, les équipes des MSF ne vont s'occuper que du suivi des blessés encore internés à l'hôpital général de référence de Virunga.
Par ailleurs, il faut désarmer les groupes armés pour aspirer à une paix durable en Ituri. C'est l'une des recommandations faites par les députés provinciaux au cours d'un café politique organisé vendredi à Bunia par la section des affaires politiques de la MONUSCO. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place des stratégies pour la promotion à court et moyen terme de la paix en impliquant ses élus. Ces derniers plaident également pour le renforcement de la collaboration avec l'exécutif provincial en vue de relever certains défis sécuritaires. Compte rendu de Isaac Remoyope.
L'activisme des groupes armés qui exploitent dès lors dans certaines entités pour s'approvisionner en armes, les conflits des limites administratives sont des défis majeurs auxquels est confrontée la province de l'Ituri, ont constaté les élus provinciaux au cours de ces cafés politiques, mais aussi la faiblesse de l'État pour imposer la paix. Ils demandent au gouvernement d'activer le programme de désarmement et démobilisation. Selon eux, il n'y aura pas de paix tant que les groupes armés garderont les moyens de nuisance. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Pele Kaswara.
Il y a le programme PDDSF. Il faut qu'on puisse l'activer, soit désarmer les groupes armés pour qu'il y ait la paix. On ne peut pas toujours parler de la paix en Ituri alors que les groupes armés continuent à garder leur capacité de nuisance. Cette question-là doit être tranchée. Ou alors c'est les rats, ou alors c'est le désarmement.
Ils ont également déploré le manque ou la faible collaboration avec l'exécutif provincial pour la recherche de la paix en Ituri. Les deux parties doivent harmoniser leurs relations, ont-ils conclu. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, Masumbuko Adaba.
Un député, c'est un représentant du peuple. Il a été élu. Et quand il s'adresse à celui qui l'a élu, pourquoi il ne peut pas l'écouter? On ne peut pas avoir la paix sans l'implication des députés. La volonté est là. Parfois, la volonté politique ne nous le permet pas.
Ces élus du peuple ont sollicité l'accompagnement de la MONUSCO pour faire face à ces défis et que la paix soit effective en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, au Maniema, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité en séjour dans le territoire de Kabambare au sud du Maniema sensibilise les jeunes à intégrer l'armée congolaise et la garde républicaine pour participer à la défense nationale. Pour ce faire, un meeting a été tenu vendredi à Wamaza. Un appel pressant est lancé aux jeunes à s'engager dans les rangs de l'armée congolaise. Florence Kizalunga, reportage.
Lors de ces meetings, le ministre a exhorté la population à s'engager dans l'armée. Lawa Moselemani fait savoir que cette initiative du chef de l'État marque un tournant significatif dans l'engagement des jeunes de la région envers la défense nationale et témoigne de la volonté des autorités de renforcer la sécurité et la stabilité dans la province du Maniema.
Le message que nous avons, c'est celui de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui invite les jeunes ayant atteint 18 ans à 25 ou 28 ans d'adhérer au sein des FRDC et plus particulièrement dans l'unité qu'on appelle garde républicaine parce que notre pays ne doit qu'être protégé par ses nationaux. La deuxième des choses, c'était pour concilier les tendances parce que vous savez, les chefs de l'État avaient signé une ordonnance portant fonctionnement de la RAD. Chez nous ici, au niveau de Salamabila, il y a la réserve armée de la défense qu'on appelle les Oazalen. Ils ont accepté d'accompagner, d'appuyer les FRDC.
Présent lors de ces meetings, Kabala Selemani, le chef de Wazalendo dans le territoire de Kabambare, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Il promet de mobiliser les siens pour qu'ils intègrent le FARDC. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, les déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Bandundu au Kwilu défèquent maintenant à l'air libre. Les installations sanitaires de leur site de Malebo étant bouchées, ces personnes qui ont fui leur milieu de vie à Kwamout à la suite des atrocités de la milice Mobondo se lavent aussi dehors par manque de douches. Le chef du quartier Kimvuka, où se situe ce site d'hébergement, déplore cette situation et redoute les contaminations à des maladies d'origine fécale. Irène Mboma a visité le site au reportage.
L'accès aux installations sanitaires est un véritable calvaire pour les déplacés internes de Kwamout, logés dans les entrepôts du marché central de Malebo à Bandundu. Sur le site, les toilettes disponibles sont bouchées il y a de cela plusieurs mois. Du coup, ces personnes en détresse défèquent maintenant à l'air libre. Une pratique jugée extrêmement nocive pour la santé publique, déclare le chef du quartier Kimvuka, Misiminga Mayama.
Le quartier est exposé à certaines maladies. Quand vous passez, c'est dans des terrassés de conduite d'eau du marché qui mène vers les étangs, les matières fécales. Allez, jeter peut-être les matières fécales derrière les bâtiments, parce qu'ils n'ont pas de choix. Ce n'est pas bon pour les cas, c'est l'insécurité, qu'il n'y a pas d'hygiène.
Préoccupé, le chef Missimi en appelle à l'intervention urgente des autorités compétentes et des partenaires humanitaires.
Nous demandons aux autorités de les assister, de nous approvisionner aussi en matériel, tel que houe, bottes, gants, chlore, pour les fils entretenir les WC qui sont bouchés.
D'après le chef du quartier Kimvuka, il se pose aussi un problème de douche dans ce site de déplacés. Hommes et femmes n'attendent que la tombée de la nuit pour prendre leur bain à l'extérieur. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, clôture vendredi à Kalemi de la campagne de sensibilisation de masse dans les écoles et les lieux publics pour promouvoir la nutrition à base des haricots bio fortifiés. L'Union des femmes mutuelles pour le développement et le Centre international d'agriculture tropicale ont organisé cette campagne, un projet de 5 ans financé par le gouvernement du Canada. Détail dans ce reportage de Paulin Munanga.
L'école secondaire Kifungo dans la commune du Lac et l'école primaire Katharina Beni dans la commune Lukuga, ville de Kalemi, sont concernés par la première phase de cette campagne qui est suivie par une distribution de semences mises dans des petits paquets de 100 grammes. L'Union des femmes mutuelles pour le développement UFMD produit et multiplie ces semences améliorées. Dans les écoles, les organisateurs expliquent aux élèves la nécessité et les avantages de consommer les haricots biofortifiés ainsi que leur impact sur la santé humaine. Ingénieur agronome Joseph Loulou Luamba, membre du Centre international d'agriculture tropicale, revient sur les avantages qu'offrent ces variétés d'haricots.
Ces variétés sont biofortifiées, riches en nutriments essentiels tels que le fer et le zinc, ce qui permet de remédier aux carences nutritionnelles, particulièrement pour une cible des populations vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les femmes enceintes et allaitantes, et aussi les femmes en âge de procréer. En ce qui concerne les temps de cuisson, ces variétés des haricots biofortifiés ont un temps de cuisson réduit, ce qui favoriserait une consommation accrue dans les Tanganyika.
Signalons que les élèves qui ont été sensibilisés sont appelés à semer la semence des haricots biofortifiés qu'ils ont reçus.
Actualité internationale.
L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis, Ebrahim Rassol, déclaré persona non grata par Washington et sommé de quitter le pays, le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'accuse d'être un politicien racialiste qui déteste Donald Trump et qui attise les divisions. Pretoria juge cette expulsion regrettable, mais réaffirme sa volonté de maintenir une relation diplomatique constructive avec les États-Unis.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, s'exprime sur la structure appelée Tujenge Maniema. Entendez, construisons le Maniema. Qu'est-ce que cette structure représente? Quels sont ses objectifs? Qui peut y contribuer? Le gouverneur du Maniema répond à Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabwankubi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
D'où est venue l'idée de Tujenge Maniema?
L'idée de Tujenge Maniema est venue de l'état des lieux que nous avons dressé avec toutes les forces vives de la province. Et dans le secteur des finances de la province, nous n'avons pas honte de vous dire que à ce jour, nous sommes parmi les provinces qui mobilisent encore moins de ressources. C'est sur cette base que nous avons mis en place des taxes conventionnelles qui ont porté premièrement sur les produits miniers et les produits pétroliers. Mais comme la gestion mise en place était transparente, il y a même des privés qui se sont intéressés, qui ont commencé à contribuer au niveau des taxes conventionnelles. Et nous avons vu qu'il y avait un problème quand même des droits. Comment des privés vont contribuer de manière volontaire dans les taxes qui sont mises en place. Et après examen du dossier, nous avons décidé de mettre en place une structure à part qui va commencer à collecter les contributions de toute la population du Maniema où qu'il se trouve de manière volontaire. Donc là, il ne s'agit pas d'une taxe, mais plutôt d'une contribution volontaire pour la reconstruction de notre province qui est en retard par rapport à beaucoup de provinces voisines.
Quel est le statut juridique de Tujenge Maniema?
Là, il s'agit d'un service public parce que nous avons mis en place un conseil d'administration et une coordination. Mais nous pensons que ce statut peut évoluer avec le temps. Mais à ce jour, il s'agit d'un service public.
Est-ce que Tujenge Maniema, après votre mandat, ne sera pas parti avec vous et même le comité qui est installé présentement?
Alors, tout ce que nous avons fourni comme effort, c'est vraiment ça. Notre souhait, c'est que Tujenge Maniema puisse survivre à nous tous. Ça veut dire, Tujenge Maniema n'est pas l'affaire du gouverneur, n'est pas l'affaire du conseil d'administration ou l'affaire de la coordination. Et le mode de gestion qui est à dominance privée que nous avons mis en place va faire en sorte que Tujenge Maniema puisse survivre jusqu'à, pourquoi pas, à l'éternité.
C'est pour le développement développement de la province de Maniema, bien sûr, mais ça ne sera pas une charge de plus à la population de Maniema.
Comme je l'ai dit avant, madame, il s'agit des contributions volontaires des fils et filles d'Imaniema. Pour votre information, il y a déjà des gens qui ont souscrit pour contribuer à hauteur de 1 000 $ chaque mois jusqu'à la fin de leur vie. Je me réserve de citer les noms des gens ici, mais nous avons déjà 5 cas comme ça qui ont dit avec les modes de gestion que vous avez mis en place, nous souscrivons chaque mois, nous allons commencer à donner 1 000 $ jusqu'à ce que nous mourons. C'est pour moi une occasion pour sensibiliser tous les fils et toutes les filles d'Imaniema où qu'ils se trouvent pour contribuer au développement de la province.
Monsieur le gouverneur, Tudjeng Maniema, à ce jour, vous avez combien d'argent déjà collecté et quelles seraient les priorités des projets qui seront exécutés par ces fonds?
Il y a 2 jours, le conseil d'administration nous a présenté 37 000 $ donnés de manière volontaire par la population. Le comité a peut-être un programme ambitieux parce qu'ils ont fait des calculs. Si chaque fils d'Imaniema n'est donné que 1 $ par mois et si c'est 300 000 personnes, parce que l'Imaniema déjà, d'après les dernières projections démographiques, c'est environ 5 millions d'habitants. Quand je parle d'Imaniema, c'est-à-dire ceux qui habitent l'Imaniema, mais vous avez une grande communauté d'Imaniema à l'extérieur du pays. Donc, si chacun donnait ne fût-ce que 1 $ par mois, sur une base de 300 000 personnes, ça fait 300 000 $ par mois. C'est pour vous dire que s'il y a un peu de volonté, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Pour votre information, il y a une ville au Mali, la ville de Kaï, qui a été construite par la diaspora de Kaï. Donc, sur base de cet exemple, nous pensons que Tudjeng Maniema sera un levier important pour la reconstruction de la province d'Imaniema de manière volontaire. Donc ici, il ne s'agit pas d'un impôt ou d'une taxe, mais d'une contribution volontaire de la population d'Imaniema au développement de la province.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïso, merci.
Merci, madame Florence.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.